Let's make America queer always.
Make America queer always. Des nouvelles des États-Unis.
Allô, allô, Chantal Nadeau qu'on rejoint en Illinois. Salut.
Salut, salut Denis Martin.
Alors, je vais te présenter convenablement notre correspondante aux États-Unis qui, dans sa vie de tous les jours, est professeure des études féministes et queer à l'Université de l'Illinois. Chantal, on va commencer par un drame épouvantable qu'on peut peut-être ou pas lier au climat politique toxique envers les communautés queer et trans aux États-Unis. On parle donc de ce climat attribuable à l'administration Trump à Washington. Je parle du meurtre brutal de Sam Nordquist, personne transgenre âgée de 24 ans, tuée dans l'État de New York après avoir été torturée pendant plus d'un mois. Parle-nous d'un petit peu de tout ça, là.
Bon, écoute... On reçoit plein d'informations contradictoires parfois, mais
Ouais.
pour la petite histoire en ce moment, qu'est-ce que les journaux rapportent et aussi la police? Même la police a qualifié le meurtre dépravé et ça a donné lieu à plein de veillées aux États-Unis et au Canada. Alors que la communauté LGBTQ est en deuil, naturellement. Jusqu'ici, il y a 7 personnes qui ont été inculpées du meurtre au second degré, en vertu de la loi sur l'indifférence dépravée, dont, en fait, l'ex-petite amie de Nordquist, ce qu'on sait de la famille, ce que la famille de Nordquist a dit, c'est qu'ils avaient déjà été ensemble et qu'au mois d'octobre, Sam Nordquist a décidé de prendre un billet aller-retour en autobus pour aller voir son ex-petite amie. Mais ce qui ressort et ce qui devient de plus en plus horrifique, bien sûr, c'est qu'à partir du début décembre, et ce pendant plus d'un mois, et on spécule aussi peut-être plus que ça, que Sam Nordquist a été soumis à des actes répétés de violence et de torture psychologique et physique qui ont conduit à sa mort. Et ça a été révélé par Kelly Swift, qui est la capitaine du bureau des enquêtes criminelles de la police de l'État de New York, qui est en charge finalement de l'enquête. La conférence de presse a eu lieu le 14 février. Le corps a été retrouvé le 13 février. Et en réponse, et ce qui ressort de plus en plus maintenant, qui va être assez contentieux, puis j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est qu'en réponse à l'attention du public, la police de l'État de New York et le bureau du procureur du comté d'Ontario ont publié une déclaration commune le 16 février, déclarant qu'ils n'avaient actuellement aucune indication que le meurtre était un crime de haine. Voilà. Alors, ce qui ressort de ça, c'est que, bon, on ajoute que la police partage le choc de la communauté face à un acte de violence aussi odieux et comprend la peur qui circule parmi les membres de la communauté LGBTQ. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les agresseurs présumés, ceux qui sont inculpés en ce moment, la police les a identifiés comme faisant partie de la communauté LGBTQ. Et que finalement, Sam Nordquist connaissait ses bourreaux. Est-ce que tu veux que je continue?
Non, ben, je pense que, donc pour le moment, on peut peut-être pas relier ça au climat assez difficile qui souffle à partir de la Maison-Blanche vis-à-vis les communautés trans et queer. Mais cela dit, il y a plein d'autres événements qui pourraient l'être. Et ça nous amène justement à tous ces décrets que Donald Trump a signés depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche. Et là, on va arrêter de parler de choses tristes. Nos communautés se mobilisent. Et ça, c'est important.
Oui, mais juste avant, si tu me
Oui.
permets, c'est peut-être pour le meurtre de Sam Nordquist, c'est peut-être pas nécessairement direct lié à ce qui se passe dans le climat politique sous Trump, mais ce qu'on sait, ce qu'on ne révèle pas du tout, c'est que 30% des meurtres commis contre les personnes transgenres, l'assaillant était connu, la victime, et aussi une chose que on n'a pas le temps d'en parler, mais que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est qu'en les accusant de meurtre au second degré, les inculpés vont avoir une peine beaucoup moins sévère qu'un crime de haine qui est jugé comme un crime prémédité. Alors, ça va être à suivre. On pourra en parler peut-être
Ouais.
éventuellement.
On va en reparler, on va en reparler. Mais allons-y, 400 procédures qui sont intentées devant les tribunaux contre les nombreux décrets de Donald Trump. Et ça, c'est par l'American Civil Union, American Civil Association, ah, je me trompe, ACLU, American...
Civil Liberties Union. Civil Liberties
Ouais, mon oncle, il se trompe un peu aujourd'hui, fait qu'il va laisser ma tante s'en occuper.
Ben écoute, ça, c'est les 400 procédures qui sont intentées par American Civil Liberties Union, mais il y en a plus. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'il y a une centaine qui touchent littéralement, ils s'attaquent littéralement, il y a une centaine de lois qui ont passé dans différents États aux États-Unis qui touchent directement les personnes transgenres. Alors là-dessus, ils s'attaquent vraiment à ça. Dans le sens général, ils travaillent vraiment sur les questions de revendication des droits. Et là, la dernière chose qu'ils ont sortie tout récemment, vendredi, c'est qu'ils vont aussi s'attaquer à la loi fédérale sur les passeports. Parce que, comme on sait, le décret présidentiel de Trump, la journée qu'il a pris, qu'il a été élu, qu'il a été intronisé, si tu veux, à la Maison-Blanche, le 20 janvier, il a signé un décret pour dire qu'il reconnaissait seulement deux sexes, hein, mm-hmm. hommes ou femmes. Et qu'est-ce que fait l'association? C'est de dire qu'il comptait ça, que les personnes transgenres anticonstitutionnel contre les personnes transgenres ou non-binaires ou intersexes de ne pas pouvoir déclarer ça sur leur passeport. Donc, ça va être à suivre.
C'est vraiment grave. Hein? Ce que j'ai lu, là, c'est qu'une personne transféminine, donc qui est venue au monde l'assignation homme, masculin, va maintenant avoir un passeport, même si elle a les caractéristiques d'une femme puis elle s'identifie femme, ça va être écrit M sur son passeport.
Oui,
ça va mettre en danger la vie de cette personne-là qui va voyager là.
Oui, oui, et ça c'est très clair, et c'est pour ça qu'ils veulent le faire. Hein. Ça réduit la mobilité, c'est toujours la même chose. Hein. Ouais. Alors, ce qui va être intéressant de savoir, c'est que si les personnes n'ont pas de certificat de naissance, si elles n'ont pas d'acte de naissance, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ah. Alors, donc, on retourne vraiment à la question à partir de l'acte de naissance, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a encore ces actes de naissance-là. Alors, ça va être aussi à suivre. C'est une des raisons que ça attire beaucoup d'attention en ce moment.
Pratico-pratique, Chantal. Donc, on parle de 400, puis peut-être plus, parce qu'il y a d'autres groupes qui intentent des poursuites contre les décrets et contre ces centaines de lois qui ont été passées depuis 2 ans. Contre les personnes trans et queer. Mais en même temps, il faut savoir que, d'abord, Donald Trump a le pouvoir absolu aux États-Unis puisqu'il a la Maison-Blanche, le Sénat, la Chambre des représentants et le nombre faramineux de juges qu'il a nommés dans son premier mandat et toutes les personnes qu'il remplace à la tête de tous les organismes. Bien là, on attend des poursuites. Puis surtout qu'on ne sait même pas s'il va suivre les décisions des tribunaux. Ça va pas bien, là.
Non, non, mais ça fait partie justement de la difficulté. En ce moment, les cours fédérales sont très actives. On devrait leur donner un trophée. Les juges, ils travaillent vraiment sur le terrain. Ils bloquent finalement les décrets, mais bon, jusqu'à temps qu'il y ait une autre décision, mais ils ralentissent le processus. Alors, ça donne du temps et de l'argent pour les diverses organisations de se mobiliser justement, incluant les gouverneurs, incluant le gouverneur de l'Illinois, Pritzker aussi. Alors ça va être aussi vraiment... Donc, il y a des choses qui bougent. Ça bouge lentement, mais ça bouge.
Est-ce que l'idée, ce n'est pas de retarder l'application de ces décrets et lois-là en attendant l'arrivée des fameux midterms? Parce que dans moins de 2 ans, il y a des élections pour renouveler le tiers du Sénat puis l'ensemble de la Chambre des représentants. Et ça pourrait changer, parce qu'habituellement, le gouvernement au pouvoir, il perd ces élections-là.
Exactement. Ce qui m'amène à parler du gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker.
Oui, allons-y. C'était une personne intéressante, oui.
Oui, Monsieur Pritzker, qui a 5 fois la fortune de Donald Trump, je pensais que ça allait te faire plaisir.
Est-ce qu'il conduit une Tesla? Non.
Non, je pense pas. Non, non. Je pense que son chauffeur, ça va. Oui. Bon, M. Pritzker, il a des visées présidentielles en 2028. Hein. Ça c'est connu. Et il est très fin dans le sens de sa façon dont il s'organise. Donc, il a mobilisé 22 procureurs fédéraux pour justement intenter des poursuites contre l'administration Trump concernant qui dénonce les coupures sauvages et illégales des transferts fédéraux. Alors, en éducation, en santé, en transport. Alors, 22, donc c'est énorme, hein? Ça vient de se passer, c'est à peu près une semaine qu'ils ont réussi à mobiliser tout ça. Alors, ça veut dire que on va bloquer l'arrêt des transferts. Donc, c'est-à-dire que le fédéral sont comme dans une espèce de situation impossible. Ils sont obligés d'envoyer les fonds. Mais en même temps, comme tu disais si bien, Denis Martin, Donald Trump fait ce qu'il veut. Hein? Alors, on ne sait pas trop. Mais ça veut dire que c'est quand même, au niveau légal, c'est là que ça se passe en ce moment, si on veut.
Et Pritzker, c'est intéressant parce que il tient tête à Trump, alors que bien d'autres personnes qui sont supposément qui ont une liberté académique, entre autres, je vais te faire plaisir, qui devraient être capables de s'y opposer, rampent.
Ben, c'est sûr que, bon, écoute, notre auditoire le sait, j'enseigne Gender Studies à l'Université d'Illinois. Alors, comme tu peux imaginer, on est vraiment dans une espèce de trou constitutionnel ou aussi budgétaire. On ne sait pas trop. Nos universités sont très, très, très frileuses, mais ça touche aussi le Canada. C'est ça qui est assez intéressant. Même l'Université York en Ontario a décidé de suspendre les admissions au programme de sexualité et de genre. Donc, il y a vraiment une espèce de les gens ont peur. Qu'est-ce que tu veux? On supprime des départements, on supprime des postes. Alors, c'est
Est-ce que toi,
vraiment.
tu pourrais perdre de ton emploi, tu penses?
Si on me donne une bonne pension, je la perdrai gentiment. Non, mais écoute, on ne sait pas. Parce que, tu sais, je me disais, mon département, c'est le département de Gender and Women Studies. C'est les deux termes qui font partie des mots.
Femmes et gens, oui.
Donc, c'est les deux termes qui font partie de la série de mots et de termes que l'administration Trump a enlevés avec le diversité, équité, inclusion. Alors, on se fait dire en ce moment de ne pas utiliser ces termes-là dans nos correspondances. On doit trouver des équivalents. Alors, voilà. Alors,
Alors, ça pourrait être étude des personnes qui ne sont pas hommes et qui... Il ne faut pas prendre le mot genre. Ah, moi, c'est hallucinant. C'est hallucinant. En passant, là, je fais une parenthèse parce que c'est quand même grave, là. Les compagnies pharmaceutiques qui doivent faire des études sur des patients vont probablement quitter les États-Unis parce qu'on ne peut plus utiliser diversité, on ne peut plus faire des études en incluant des personnes des diversités, et ce qui fait que les résultats ne seront pas concluants si on veut avoir des résultats sur les études. C'est sérieux, là. Il y a beaucoup de choses. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, là, de ce qui se passe dans ce discours-là.
Non, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va vraiment affecter les gens dans le quotidien, comme tu disais, les médicaments, la recherche, même les gens en sciences qui d'habitude se foutent compte carrément de ce qui se passe du côté des sciences humaines, mais ils sont mobilisés aussi parce que aussi leurs fonds sont gelés.
Oui.
Pas de transferts qui se font, ils peuvent pas faire leurs recherches, comme tu dis. Alors, donc ça devient très sérieux et c'est ça que la stratégie du gouvernement de l'administration Trump, c'est de vraiment créer un climat de peur.
Ouais.
Donc, et je te dirais que ça marche au niveau, dépendamment où on est ou pour qui on travaille, mais dans les milieux universitaires, ça marche, je te
Donc,
dirais.
heureusement, il y a J. Robert Pritzker qui est votre gouverneur, puis lui, il n'a pas la langue dans sa poche, puis ça, il va combattre ça. Mais il n'est pas tout seul. Moi,
Non.
j'ai été vraiment surpris de voir cette personne qui s'appelle Janet Mills, qui est la gouverneure démocrate du Maine. Madame de 77 ans, puis, oh mon Dieu, elle n'est pas barrée à 40 ans.
Non. Puis c'est quelqu'un qui a déjà, de façon très claire, qui a déclaré qu'elle ne se représenterait pas dans 2 ans au midterm. Donc, mais c'est pas. Donc, elle dit ce qu'elle a envie de dire. Alors, ils se sont accrochés finalement parce que Madame Mills, ce qu'elle veut faire, c'est de permettre finalement aux athlètes transgenres féminines de pouvoir compétitionner dans certains sports.
Ouais.
Et naturellement, Trump s'est énervé et puis ils se sont accrochés à la télé, on a vu ça. Et elle lui a dit carrément, on se verra en cours. Alors lui, il l'a pas pris, hein. Alors, mais comme je te disais, c'est pas la première fois qu'il s'accroche. En 2020, quand on était en pleine pandémie, Monsieur Trump avait décidé d'aller visiter le Maine, une usine qui faisait des trucs, là. Et puis, elle lui a dit de rester chez lui.
Ah
Parce que
oui, je me rappelle de ça, oui.
je lui avais dit de rester chez lui parce qu'en plus, pour ceux qui s'en souviennent, on était en pleine crise avec Black Lives Matters.
Oui.
Alors, elle lui avait dit, écoute, il va y avoir des protestations et tout le système de sécurité pour un président. Elle lui a dit, non, tu viens pas là, reste chez toi. Il l'a pas pris. Alors, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent les deux. Alors, voilà.
Alors, quelles sont les probabilités que d'autres politiciens et politiciennes, haut placés comme ces deux-là, décident d'en faire autant?
Ben
Est-ce
là,
qu'il y en a d'autres qui pourraient s'en venir là?
oui, ben là, le gouverneur de la Californie,
Ah oui, c'est vrai, Gavin Newsom, oui.
Gavin Newsom, Shapiro de la Pennsylvanie. Donc, jusqu'ici, il y a 8 poids lourds démocrates qui ont une espèce de groupe qui s'organise. Donc, j'ai l'impression qu'on va assister en série. Ça ne sera pas tout en même temps. On va avoir. Leur stratégie, c'est vraiment d'occuper l'espace médiatique. Alors, si on fait seulement une déclaration, on disparaît si on en fait plusieurs. Alors, mais là, on s'attend à ce que Shapiro fasse une déclaration très, très rapidement. Donc, c'est lent parce qu'ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est l'argent qui mène les élections. Alors, l'avantage de quelqu'un comme Pritzker, c'est celui qui est le plus fortuné dans tous les politiciens américains en ce moment.
Bon, puis je vais te lancer un autre fait. On sait que la popularité de Donald Trump est en baisse déjà. Est-ce que ça va peut-être encourager d'autres qui avaient peur de lui, de peut-être commencer à parler?
Écoute, j'imagine que oui, mais c'est très risqué pour la vie de ces gens-là qui parlent. Ça s'est passé dans les journaux, le nom m'échappe, mais il y a des juges qui sont obligés de s'engager des firmes de sécurité parce qu'ils se font intimider, hein, et leurs familles se font intimider par des supporters de Trump. Ça reste ça. Il faut avoir quand même. Mais je trouve qu'il y a des gens qui ont quand même beaucoup qui sont très braves. Et puis, c'est sûr que si ça bascule, si une des chambres peut basculer,
Oui,
ça va aider.
au midterms, ce qu'il appelle,
Au
oui.
midterms, oui, c'est ça. Fait que.
Il me reste 45 secondes, puis je sais que je t'ai envoyé ça. J'ai vu passer, puis c'est assez hallucinant, il y a 9 États américains qui pourraient carrément annuler les lois sur le mariage de même sexe.
Mais ça c'était annoncé, hein. C'est une
Ouais.
catastrophe. Tu te souviens avec Roe v. Wade, quand
Ouais.
Clarence Thomas avait déclaré, ce n'est que le début, il va falloir qu'on commence à regarder same-sex marriage et tout ça. En fait,
Ah,
c'est.
mon Dieu. Bon,
Oui,
écoute, on s'était dit qu'on n'était pas pour toujours aller dans la grande misère puis la noirceur. Bon, on termine avec ça, mais c'est pas grave, on va se reprendre le mois prochain. Chantal Nadeau, notre correspondante aux États-Unis, merci d'avoir été avec nous.
merci, Denis Martin. Bonne fin de journée.